Bonjour et bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Et bienvenue au printemps avec ses bourgeons et ses rayons de soleil, ça fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de prise de recul avec Arnaud Constantias qui est le co-auteur de Mon Inspiration du jour. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu de connaissance de soi en coopération avec les autres pour des groupes de plus de 50 personnes. Nous retrouvons tout de suite Arnaud. Bonjour Arnaud Constantias.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler encore de toutes ces techniques de savoir-être dans le management et pour le travail. Et avec vous, on va parler particulièrement, vous êtes co-auteur d'un livre, Mon Inspiration du jour, et on va parler de la prise de recul qui est nécessaire dans le management. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous raconter peut-être un peu votre parcours ?
D'accord, avec plaisir. Donc, moi, je suis Arnaud Constantias. J'ai commencé une carrière dans la banque, où j'ai travaillé dans des banques internationales et de la banque d'affaires. Et puis, dans les 10 dernières années, enfin, j'ai travaillé 15 ans dans la banque, hein. Dans les 10 dernières années, j'ai fait tout un travail d'analyse sur moi et puis aussi de travail autour du chant et du yoga, ce qui m'a amené à m'intéresser vraiment beaucoup à la question des comportements. Et c'est pour ça que dans une deuxième partie de carrière, j'ai créé une première société, puis une deuxième, autour de la formation en management et en développement personnel, autour du coaching individuel, autour de l'accompagnement d'équipe et autour de la supervision de coach. C'est ce que je pratique donc depuis plusieurs années déjà maintenant.
Vous êtes mis au chant, au yoga et à toutes ces techniques de connaissance de soi alors que vous étiez dans la banque. Comment vous avez fait votre transition ? Parce que c'est deux métiers très très différents. Ben, qu'est-ce qu'il y a eu un déclic ?
Ben, comme je vous dis, quelque part, j'avais fait la transition. J'ai mis 10 ans pour faire la transition puisque j'étais dans la banque depuis 5 ans et donc j'étais dans la dernière partie du travail de la banque déjà à cheval sur les deux. Donc la transition, après il y a eu un déclic. À un moment donné, j'ai un ami qui faisait à peu près, qui avait fait le même parcours que moi, qui avait créé une société de formation, qui m'avait demandé si je pouvais le rejoindre. J'ai mis un an pour réfléchir. Et puis, à un moment donné, je me dis, bah oui, je vais avoir 40 ans. C'est le moment ou jamais.
Et c'est la crise de la quarantaine.
Voilà, voilà la crise dans l'aspect positif. Et puis, je me suis lancé. Et voilà. Oui, dans le coaching, je me rends compte que finalement, beaucoup des situations que j'ai eu à travailler m'ont amené à penser que finalement, j'avais une certaine compétence dans la complexité, dans la gestion de la complexité par les dirigeants ou les managers, et de travailler autour de cela, donc autour du discernement, autour de la prise de recul, justement, qui est nécessaire pour pouvoir appréhender la complexité. Complexité systémique, complexité relationnelle, complexité des entreprises.
Alors justement, qu'est-ce que vous entendez par cette prise de recul ? À quel moment, quelle forme elle prend et à quel moment elle est nécessaire ?
Ben, je pense que le manager d'aujourd'hui, il peut facilement se noyer. Noyé dans les procédures, noyé dans l'administratif, noyé dans l'afflux des mails quotidiens, bousculé par le travail haché qui ne lui permet pas forcément de mener une tâche à bien. Il peut être aussi empêtré dans le désir d'atteindre des objectifs quantitatifs, d'avoir à résoudre des conflits interpersonnels de son équipe. Au-dessus de ça, il y a l'urgence et la rapidité qui font tout ça ensemble, fait que voilà, un manager peut très vite être perdre son chemin, perdre son sens, perdre sa raison d'être, perdre sa valeur ajoutée, et tout d'un coup ne plus faire le travail vraiment d'un manager qui est quand même évidemment d'avoir un peu de hauteur sur les choses et de pouvoir anticiper et voir les choses sans en être empêtré, hein, en quelque chose. Voilà.
Donc en fait, au cœur au cœur de cette problématique, on va dire, il y a le temps.
Oui, il y a le temps. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup de coaching où on doit travailler sur la gestion du temps, sur l'organisation de l'agenda, sur le traitement des mails et sur l'organisation de temps de prise de recul, de temps pour moi pour pouvoir réfléchir à la stratégie, pour pouvoir réfléchir à ma manière de manager ou de diriger, du temps pour aussi me ressourcer intellectuellement, pour ne pas, voilà, pour prendre un peu de hauteur. Et puis du temps pour analyser aussi ma propre façon d'appréhender la réalité, ce que j'appelle le discernement. Et dans le livre que j'ai coécrit, forcément, il y a 365 inspirations, donc des inspirations qui sont parfois pas du tout en lien avec le travail, mais certaines sont quand même très en lien avec le travail, parce que bon, voilà, comme je suis dans, c'est mon métier, ça transparaît aussi dans mes écrits, même si c'est pas des écrits qui sont directement destinés au manager. Les 365 inspirations, elles sont destinées à un large public.
Donc, on parle juste pour finir sur cette notion de temps. Donc, on est noyé, on a des objectifs quantitatifs, on doit gérer l'équipe. On manque de temps. Donc, comment tout d'un coup prendre du temps pour justement, vous avez dit, se nourrir, prendre de la hauteur? Est-ce que ça n'augmente pas cette pression de ce qu'on a à faire dans ce temps réduit? Comment vous amenez les gens à, ou les managers à prendre ce temps? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps?
Déjà, le premier travail, je pense, c'est de réfléchir à sa mission, à la valeur ajoutée que chacun apporte, et à se concentrer sur cette valeur ajoutée. Donc en faire faire du tri, du tri avec la délégation ou d'autres moyens, mais faire en sorte que chacun prenne un peu de recul sur justement je suis attendu sur quoi et où est ma meilleure valeur ajoutée, qu'est-ce que j'apporte là où je suis le plus utile, quel est le meilleur service que je rends à mon entreprise ou à la collectivité, quel bien je fais finalement aussi aux autres, à mes collaborateurs ou à mon entourage, et à se concentrer là-dessus. Et ça, c'est faire preuve de discernement, hein, pouvoir trier. Et si vous voulez, je peux peut-être vous lire le texte sur le discernement.
Je vous en prie.
C'est le 7 novembre, en l'occurrence. Donc, je vous lis le discernement. Voici une valeur bien utile pour avancer dans un monde de plus en plus complexe. Percevoir la réalité pour discriminer ce qui est important, pour porter un jugement qui facilite la décision. Cela implique les émotions, le ressenti, engage l'intelligence et l'intuition, suppose le courage de trancher. Commence par t'observer. Comment appréhendes-tu le mieux la réalité? Est-ce par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher? Observe aussi ta relation aux intuitions. T'en sers-tu, leur fais-tu confiance? Allies-tu raison et intuition? Observe aussi ta manière de décider. Est-ce en attendant d'avoir tous les détails ou seulement avec quelques éléments de synthèse, en suivant ton feeling, en prenant en compte les impacts sur les autres? Tu discerneras ainsi les forces et faiblesses de ton discernement et en déduiras des points d'amélioration. Donc voilà, mes inspirations, elles sont aussi des questions, un peu des questions de coach, des questions pour justement réfléchir et sortir du train-train des actions-réactions. Parce que dans l'urgence, on est tenté de refaire ce qu'on a toujours fait et de faire les choses un peu par automatisme, par reproduction. Et du coup, notre discernement est mis un peu de côté.
Alors, si on prend ce chapitre du discernement, donc je regarde par quel sens je sens les choses, on va dire. L'intuition, la raison, la façon dont on décide... Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a identifié ça?
C'est déjà important de savoir justement quelle est ma façon d'appréhender la réalité. Et donc, qu'est-ce que je vois bien que les autres ne voient pas forcément et qu'est-ce que je ne vois pas que les autres voient? Par exemple, si je suis très centré sur justement la réflexion, l'analyse, etc., peut-être que justement je suis moins centré sur les ressentis ou mes émotions. Or, les émotions me donnent des informations. Donc, vous voyez, c'est, l'enjeu, c'est de voir justement, d'avoir un petit recul sur ma façon d'appréhender les choses, comment je perçois la réalité, qu'est-ce que je perçois particulièrement bien, qu'est-ce que je perçois moins bien, et comment je fais de toutes ces informations, comment je l'analyse, comment je la trie, et comment finalement, in fine, dans le processus du discernement, comment j'en arrive à décider, à trancher. Hein, comme je le dis, il y en a qui tranchent un peu rapidement avec l'intuition seulement et d'autres qui analysent tout dans le détail. L'enjeu, bah, c'est de voir les forces et les faiblesses et puis de compenser autant que faire se peut les faiblesses ou bien en veillant à corroborer par exemple mes intuitions par la raison ou bien en essayant d'avoir dans mon équipe ou dans mes collègues une personne qui bah, lui a le chaînon manquant à ce qui me manque et peut combler ou confronter mes choix et les apporter l'élément que moi je n'apporte pas. Vous voyez, on va trouver une compensation finalement en utilisant les forces des autres pour analyser la réalité.
Si je prends l'exemple concret que vous venez de donner sur la réflexion-analyse par rapport aux émotions, parce que dans ce que vous me dites, ce qui m'interroge encore, c'est ça veut dire qu'il faut que je porte un jugement sur ce qui est une bonne façon de faire ou d'être et une qui serait une lacune ou un déficit. Donc dans cet exemple concret, je constate que je suis plutôt dans la réflexion. Oui. J'ai tout intérêt à... Alors ça veut dire qu'il faut que je me modifie ou que j'aille chercher chez quelqu'un d'autre ce côté émotionnel ?
Ça veut dire, effectivement, vous avez le choix. Vous avez le choix de développer, de travailler sur vos points un petit peu faibles et de travailler en coaching. Moi, ça m'arrive très souvent de travailler, justement, j'ai eu un manager il n'y a pas tellement longtemps, très chevronné pourtant, mais qui avait conscience qu'effectivement, il n'utilisait pas beaucoup les émotions dans sa communication et du coup, il était moins percutant et que du coup aussi, dans le lien avec ses collaborateurs, n'était pas très chaleureux. Donc, il a décidé, lui, de travailler sur, justement, développer une intelligence et une communication émotionnelle et il a utilisé le moyen du coaching. Mais, après, c'est la liberté de chacun. Je ne peux obliger personne à travailler sur des points faibles s'il ne veut pas se réformer. Et dans ce cas-là, bah, à tout le moins, l'enjeu, c'est de trouver des éléments dans l'équipe qui pourraient me compenser mes manques. Vous voyez, donc on a le choix, je pense.
Mais ça veut dire qu'il y aurait un curseur d'équilibre sur chaque caractéristique, que ce soit les sens, l'intuition, la raison, notre manière de décider. Il y a vraiment un curseur d'équilibre quelque part qui serait toujours le même pour tout le monde.
Non, je ne dis pas ça du tout. Il n'y a pas une seule façon de faire. Justement, l'intérêt, c'est la diversité. Et c'est pour ça que je dis qu'en travaillant en équipe ou avec les autres, on peut se rajouter nos différentes compétences. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que par ailleurs, il ne faut pas tomber dans l'illusion de toute puissance et de croire que voilà qu'on est bon dans tous les domaines et qu'on perçoit la réalité de façon absolument parfaite. On est tous myopes d'une façon ou d'une autre sur certains aspects. Donc non, le but c'est pas d'une norme, mais c'est d'être conscient avant tout. Et là, je pourrais vous lire là quelque chose que ma co-autrice a écrit, qui était un texte sur la conscience que je trouve très joli. C'est Marie-Édric qui l'a écrit, c'est le 19 avril. La conscience est comme le saphir d'un tourne-disque. Quand il se pose sur un sillon, la chanson se met à jouer. Sinon, elle reste prisonnière du vinyle. La conscience est comme un projecteur. Quand son halo balaie une scène, la scène s'éclaire et prend vie. La conscience est comme une loupe qui magnifie les situations en leur donnant toute leur importance. La conscience est comme un outil de précision pour vérifier si la décision prise te laisse dans un confort moral. La conscience est comme un phare qui te guide dans la tempête, une lumière intérieure qui aiguise ton intelligence et brille dans ton regard. La conscience est le pur esprit qui n'est rien d'autre que toi-même, le vivant à l'intérieur de ton corps. En vivant ta journée en pleine conscience, tu te sentiras éclairé et éclaireras le chemin pour d'autres.
C'est très beau, très poétique. Et comment on peut vivre plus en pleine conscience alors? Parce que moi je suis toujours dans les comment, vous comprenez.
Je pars, oui.
C'est partie des interviews. Hein. Vous me parlez poésie et moi je suis là, mais comment
Ah, c'est une démarche de coach de poser les comment, vous avez bien raison. Hein. Comment vivre en pleine conscience? C'est effectivement d'abord, comment dirais-je? Faire attention, être vigilant, c'est une question de vigilance en fait, c'est une question de regard porté et de regard plus large. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vous parle, j'essaie d'être en même temps conscient de ma posture, de mes ressentis corporels, de mon bien-être ou de mon mal-être, de comment vous m'entendez, comment vous me percevez. Est-ce que la connexion reste entre nous, malgré la distance? Voilà, c'est de percevoir plusieurs choses en même temps. C'est, si vous voulez, la situation que j'observe, mais moi la regardant, moi la vivant, cette situation, et d'être finalement le plus possible ouvert et en même temps bien ancré, bien présent dans ce qui se passe en ce moment. Pas perdu par des préoccupations autres que ce qui se passe. Voilà, essayant de chasser s'il y a une pensée qui vient sur le rendez-vous d'après ou d'avant, vous voyez, qui viendrait polluer notre relation et qui ferait en sorte que je ne serais moins présent et moins participatif de la situation dans toute sa complexité.
C'est, en vous écoutant, je me faisais une remarque très personnelle. que depuis très très longtemps, justement, quand je suis avec quelqu'un dans une situation, je suis très consciente ou très observatrice et de la scène et des émotions et de l'autre et de moi. Et parfois, j'ai l'impression que j'aimerais aussi m'oublier. Mmh. Et donc, quand vous parlez de cette pleine conscience qui est une forme d'observation, oui, de présence, mais de présence aussi par le mental, j'ai l'impression, d'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et je me dis, peut-être que si j'arrivais à dépasser même ça pour être complètement présent, mais oublier la petite voix et l'observateur, est-ce que c'est une chimère?
Je pense que ce serait plutôt une réduction, que finalement cet œil de la conscience qui est un peu en arrière-plan, c'est aussi un guide, c'est aussi un garant, et c'est une bonne chose. Alors, ce qui serait gênant, c'est si cet œil-là n'était pas un œil ouvert, mais que c'était un œil qui juge négativement et dont le discours viendrait polluer la situation. Mais si c'est juste un œil présent ouvert, du coup, votre présence, elle est élargie par la conscience que vous avez de ce qui se joue, non dans l'interaction entre nous, dans votre façon de comment je perçois votre façon de la vivre et comment je la vis moi-même. Vous voyez, donc c'est plutôt un enrichissement. Votre observation, elle est intéressante. Elle me fait penser souvent à ce que les gens qui font de la méditation ont comme jugement par rapport à leur pensée en méditant. C'est vrai que quand je fais de la méditation, ce qui aide pour la pleine conscience, bien sûr, du coup, je suis ouvert à ce qui se passe. Mais très souvent, quand on apprend la méditation, on te dit « Non, ne faut pas penser, il faut rejeter les pensées. » Ok. Mais ça devient une contrainte qui rend la présence impossible. Donc l'enjeu, c'est pas de jeter la pensée, c'est simplement de l'observer comme un des éléments dans le paysage, comme des nuages, comme le disent souvent les gens qui travaillent sur la méditation, comme des simples nuages dans le ciel, mais qui n'empêchent pas de voir la beauté du paysage. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais des nuages qui discutent beaucoup, ils font beaucoup de bruit.
Ah ben dans ce cas-là,
mais
ils font d'autant plus de bruit que vous vous attachez à eux, que vous les regardez et que vous dites « Ah là là, ils polluent, ils sont trop nombreux, etc. » Et du coup, c'est votre jugement qui renforce ces nuages, alors qu'il suffirait de les observer, de les laisser passer. Mais ce n'est pas si facile que ça, effectivement.
Ah non.
Je suis d'accord avec vous.
Est-ce que vous avez d'autres, je sais pas, d'autres chapitres ou d'autres outils qui aident à la prise de recul?
Alors, je dirais l'observation de la subtilité. J'ai envie de vous lire une inspiration qui est celle de demain, celle du 18 mars, parce que nous sommes le 17 mars aujourd'hui.
Qui, ouais.
Vous couperez peut-être
pas. Celle du passé alors. Dans le passé, on ne sait plus, mais quelques jours. Il y a quelques jours. D'accord.
Je vous lis donc une nuance qui est du 18 mars et je vous dirai le lien avec notre sujet. La nuance est le propre de la civilisation, n'est-ce pas, par incapacité à appréhender les nuances que pêchent les fondamentalistes. Le manichéisme, où le bien et le mal sont si brutalement séparés, n'est-il pas une forme d'arriération mentale? La nuance est fragile, multiple, et confère à la beauté ses plus beaux atours. Le rouge nuancé devient garance, corail ou coquelicot, alizarine, cardinal, passe-velours, ponceau, pourpre, écarlate ou incarnat, rouille ou rubis, vermeil, vermillon, terracotta, tomette, bordeaux ou bismarck. Tu peux jouer aujourd'hui avec les nuances, comme un peintre sur sa palette, un écrivain avec les synonymes, un musicien avec les demi-tons. Tu peux aussi t'amuser à dévoiler d'autres nuances de toi-même et jouer de la surprise de ton entourage. En passant par la subtilité, la nuance te rapproche de la vérité. Donc, pour moi, la nuance, c'est à la fois le sensible, c'est la subtilité. C'est l'observation du détail, de la finesse des choses. Et je pense que cette observation-là, sauf si elle tombe effectivement dans un pointillisme ou dans une obsession du détail et de la perfection du détail, mais si ce n'est pas le cas, si c'est une ouverture à la subtilité des choses, eh bien c'est un chapitre de progrès pour le manager. C'est-à-dire d'accepter de voir la complexité et de voir la beauté de cette complexité comme un élément d'une civilisation qui a progressé, qui aboutit, qui accepte les nuances et qui ne tombe pas dans les pièges de la caricature et de la simplification. Si vous voulez, par rapport à la complexité, je ne crois pas que c'est avec des outils simples, tout fait, sortir de l'euro, supprimer les frontières, au contraire, mettre des murs. Enfin, avec des outils simples qu'on résout la complexité. Voilà, un chirurgien qui a une opération complexe, eh bien, il a une multitude d'outils il en a beaucoup plus qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'à chaque situation, il faut l'outil adapté. Donc, apprendre la nuance, la subtilité, c'est être en accord avec la complexité des choses et c'est avec des outils fins qu'on va pouvoir la régler, et non pas avec un marteau ou une hache.
Ouais, je suppose que ça rassure certaines personnes de prendre les choses à l'emporte-pièce. Comment on s'ouvre à cette complexité et à cette nuance? Comment on en fait quelque chose dont on se délecte plutôt que quelque chose que l'on craint ou que l'on résume ou que l'on synthétise un peu
absolument.
Activement.
Absolument, et j'aime bien votre mot de se délecter, c'est effectivement, c'est ça, il y a un côté savoureux dans la finesse, de même que quand voilà, je vois toutes les nuances de rouge, eh bien c'est savoureux de voir, ne serait-ce que ces mots, d'entendre ces mots des peintres pour qualifier les nuances du rouge. On pourrait faire pareil avec toutes les couleurs, bien sûr.
Alors comment on s'ouvre à ça, à percevoir toutes ces teintes? Est-ce que ça ne demande pas un esprit déjà construit comme ça, ou c'est vraiment quelque chose qui se développe?
Ah oui, ça se développe. Je me souviens à un moment donné, avec une amie qui avait créé un cabinet qui s'appelle Synthesis, et qui fait des accompagnements de quatre dirigeants, il y avait toutes sortes d'ateliers dans ce parcours de formation des quatre dirigeants, d'ateliers avec le détour culturel. Et notamment, j'avais accompagné un directeur informatique, plutôt rationnel, et de retour d'un atelier créatif qu'on avait fait autour de tableaux du musée du Prado à Madrid. Et donc, on avait demandé à ces managers, qui sont rapides, de passer du temps devant un tableau, un seul tableau, de passer 20 minutes devant un tableau. Ils étaient à trois, et de laisser émerger ce qui leur venait pour faire un commentaire sur ce tableau. Alors, au début, ils étaient agacés, passer autant de temps là-dessus, ça n'avait pas de sens, c'était énervant au possible. Mais passé leur agacement, ils ont accepté d'entrer dans l'exercice. Et du coup, ils ont commencé à voir justement toutes les nuances, toutes les parties du tableau, tous les détails du tableau. Puis ensuite, à échanger sur leur ressenti à la fois général, mais aussi sur chaque élément du tableau. Et ils se sont ouverts progressivement et ils ont été surpris par tout ce qui venait, par tout ce qu'ils étaient capables de dire de ce tableau-là. Et ils en ont fait un rapport pour les autres membres du groupe. Et ils ont été extrêmement fiers d'avoir été capables de produire autant d'analyses, d'aussi fines analyses, aussi multiples, et de pouvoir justement décrire justement cette complexité du tableau dans tous ses aspects. Et l'exercice qui était troublant au début est un exercice magnifique et ensuite un exercice de générateur de fierté. Et en coaching, après, j'aurais demandé à ce monsieur comment il pouvait appliquer ça. Et il devait l'appliquer à... Et il avait un gros sujet à ce moment-là qui était justement la refonte du système informatique. Et je lui demandais comment vous faites d'habitude. Ben là, je vais faire un cahier des charges, je vais faire différents critères très rationnels, et puis autour de ça, on va aboutir à un choix. Je dis, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi vous faites ça? Il dit, ben en gros, c'est pour me sécuriser, puis pour faire montrer que justement, même si c'était quelqu'un d'autre, eh bien, on aboutirait au même choix. Il dit, ah bon, voilà une drôle de motivation. Donc, c'est plutôt un choix de sécurité. Mais bon. Si vous vouliez intégrer l'exercice du Prado, qu'est-ce que vous en diriez? Alors, je l'ai laissé réfléchir et à la prochaine séance, il est revenu. Puis il me dit, oui, j'ai bien pour réfléchir. Du coup, je pense qu'il y a d'autres critères qui seraient intéressants, peut-être des critères sur l'évolution du système à 3 ans, à 10 ans, sur comment les gens pourraient le vivre. Enfin, toutes sortes de critères plus sensibles qui enrichissaient la matrice de choix. Et puis du coup, il m'a dit « ça m'intéresse beaucoup, mais en même temps, j'ai un petit peu peur ». Alors du coup, il est allé voir d'autres personnes et il a corroboré son choix avec des utilisateurs, toutes sortes d'autres personnes, parce qu'effectivement, c'était nouveau. J'ai dit « vous avez bien raison ». Et du coup, la matrice est enrichie. Et in fine, on aboutit à une matrice de choix, de critères pour faire ce choix, qui était beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante que celle du départ. Et in fine, il l'a mise en application et effectivement, le prestataire a été probablement différent que celui qu'il avait choisi. Et ça portait sur des choix de millions d'euros. Et je lui ai demandé, in fine, que pensez-vous de ce parcours et de votre matrice de choix? Ben, il me dit, j'en suis fier parce qu'elle est à la fois plus riche qu'avant, plus sensible, plus évolutive et puis j'ai mis plus de moi. Je dis, ben voilà, belle application d'un travail sur la nuance et sur le sensible.
Et l'exemple en plus qui rejoint ce qu'on s'est dit avant, donc, et sur la pleine conscience avec les tableaux et son cahier des charges, hein, mais la pleine conscience, ça me fait penser au grain de raisin de Jon Kabat-Zinn, qui est d'observer un grain de raisin, ce qu'on ne fait jamais, et d'en voir toutes les nuances justement, ou toutes ces choses qu'on ne regarde pas habituellement. Puis il y a cette notion de temps, de prendre le temps de percevoir ces nuances. On arrive au bout de l'interview avant d'aborder le questionnaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter dont on n'a pas parlé sur le sujet?
Oui, j'aimerais vous lire peut-être un dernier texte sur la responsabilité, parce que je pense que ça parachève un petit peu cette notion de prise de hauteur. Pénalement, si tu n'es pas conscient de tes actes, car ta santé mentale est compromise, tu n'en es pas responsable. À l'inverse, plus tu es conscient, plus tu es responsable. L'individuation nous rend donc comptable de nos actes, de nos paroles, de nos jugements. Si ton but est l'unité et que tu parviens à être lié aux autres et à toutes choses, alors tu deviens responsable des actes de chacun de tes frères comme des tiens, responsable aussi de la guerre et de la violence du monde. Te voici alors tenu de faire la paix en toi, de changer ce que tu peux changer, de progresser chaque jour pour faire avancer l'humanité, d'être exemplaire. Cela paraît lourd à apporter, mais si tu en réalises les bénéfices pour toi, toute notion de responsabilité disparaît. Inspire, expire et allège-toi de plus en plus. Et vole, vole et t'envole.
Je vous remercie. En plus, c'est un mot qui me parle particulièrement. Je crois à 100% de ma responsabilité dans ce que je vis dans ma vie. Je le dis souvent. Donc, merci pour ce dernier chapitre. Et je vous propose de commencer avec la première question du questionnaire.
Oui.
Qui est... Est-ce qu'il y a une erreur ou un échec que vous, dans votre vie, professionnelle ou personnelle, qui vous a beaucoup fait grandir et vous a beaucoup appris? Et surtout, qu'est-ce que ça vous a appris?
Un échec qui m'a beaucoup appris, j'ai vécu un échec qui a été assez cuisant dans mes études. J'avais fait Sciences Po Paris, j'avais fait du droit en faculté, et puis j'avais passé le concours de l'ENA. J'avais réussi les écrits, mais j'ai vraiment raté les oraux. Et mine de rien, ça m'a beaucoup affecté parce que je pense que j'y ai rêvé souvent dans les années après, même si sur le moment, j'ai fait comme si je n'étais pas si affecté. Et effectivement, ça a été un échec qui ne m'a pas appris dans l'instant, mais qui m'a appris après. Je pense qu'effectivement, si j'avais réussi, je n'aurais pas été la même personne. Je pense qu'à 20 ans, j'étais assez orgueilleux, voilà. Et que je pense que si j'avais réussi, j'aurais continué dans cette voie-là. Alors que ça a été quand même un coup sur l'orgueil. Et c'était bien parce que je pense que voilà, il était un peu trop haut et que ça. Ça m'a permis de redescendre un peu. Comme c'était le premier échec, il est resté longtemps. Ça m'a appris l'humilité et j'avais vraiment besoin d'apprendre. Même si, comme je le dis d'ailleurs dans une des inspirations du jour, l'orgueil est aussi. Il y a aussi quelque chose de positif dans l'orgueil. C'est un puissant moteur. Et que par orgueil, on peut vouloir avoir une belle image, mais du coup, faire ce qu'il faut et acquérir des compétences pour ça. Donc, il y a des choses positives dans l'orgueil, mais le fait est qu'à un moment donné, ça peut avoir évidemment des impacts dans la relation aux autres et dans la relation à soi-même. Donc, c'était un échec cuisant qui m'a servi, qui me sert encore de temps en temps pour me rappeler... à mes limites et à ma perfection.
Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui vous a personnellement ou professionnellement beaucoup fait avancer?
Oui, il y a un outil que j'utilise pas mal en coaching et que j'utilise aussi pour moi-même qui s'appelle le dialogue intérieur ou voice dialogue en anglais parce que c'est beaucoup utilisé aussi dans le monde anglo-saxon, qui est un outil d'origine jungienne qui en gros permet de découvrir ses sous-personnalités et de leur donner la parole, si je puis dire. Bref, pour donner un exemple, si je suis dans un coaching et que tout d'un coup je sens la personne qui est dans une énergie un petit peu, par exemple, de victime, hein, et de lui en faire prendre conscience et puis tout d'un coup de dire, écoutez. Laissons l'exprimer, cette partie est là aussi droit de citer. Et si vous l'exprimiez, elle s'installerait où dans la salle? Donc je lui demande éventuellement de bouger, absolument, de bouger et puis de prendre la position de cette personne, de cette partie de lui-même, cette sous-partenaire victime. Donc voilà, il va s'installer et je vais lui, tout d'un coup, on va parler à cette sous-personnalité. Et on va lui demander justement quel est son message, quelle est sa fonction, pourquoi elle est là. Et est-ce qu'elle se sent entendue du moi conscient de la personne elle-même, pourquoi elle continue toujours à lui faire ses messages et quelle place elle aimerait avoir, quelle juste place serait la sienne, et quel serait le dialogue qu'elle aimerait avoir, quelle est la communication qu'elle aimerait avoir avec le moi conscient de la personne. Et après, la personne revient à sa place et revient à son moi conscient, si on peut dire, et elle décrit justement ce que ça lui a fait. Et en général, c'est un gros impact.
Et donc, quand vous êtes chez vous, tout seul, vous vous dites, tiens, je vais me faire un petit dialogue intérieur et vous allez vous asseoir dans un autre fauteuil et vous parler à vous.
Eh bien oui, j'ai commencé à faire ça et à faire un dessin de toutes mes sous-personnalités et de leur emplacement dans la pièce. Et effectivement...
J'aimerais bien être une petite souris qui est
dedans. Oui, c'est assez drôle. Surtout quand on convoque l'homme sauvage ou le guerrier.
C'est vrai.
Ça peut faire du bruit.
Il y a un homme sauvage en vous.
Ah, bien sûr, oui, mais en vous aussi.
Écoutez... Là, vous aiguisez ma curiosité. Vraiment, j'ai mon imagination qui part au galop. Là. C'est marrant, cet outil me fait penser... Alors, je pense que bientôt, on va faire une interview sur un sujet connexe, mais ça me fait aussi penser aux constellations systémiques.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Quelque part, là, on met en scène une constellation de sous-personnalités. Effectivement, il y a tout un système qui se joue où, justement, peut-être que certaines sous-personnalités prennent trop de place et posent problème, du coup, ou d'autres ne peuvent pas s'exprimer ou le moi conscient ne laisse pas s'exprimer, ce qui pose problème. Si c'est, par exemple, la créativité ou des choses comme ça, l'enfant créatif ou l'enfant libre. Donc, c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour ressentir énergétiquement, justement, ces sous-personnalités et pouvoir créer un équilibre plus propice à l'expression de chacun et au désir du moi conscient de la personne qui désire être accompagnée, par exemple.
Écoutez, très intéressant, c'est la première fois que j'entends parler de ça et ça m'intrigue, je vais faire des recherches.
N'hésitez pas.
Question suivante, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Bon, j'aurais tendance à dire la conscience de soi. Voilà, dont on a parlé, se connaître et s'accepter, ce qui n'est pas rien comme travail.
C'est sûr. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué,
oui,
que vous pourriez conseiller à la lecture?
Oh, il y en a beaucoup. Écoutez. Là, parce que c'est un livre récent dont on a beaucoup parlé, je crois que c'est de Laurent Binet qui s'appelle « Les vertus de l'échec », qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et, bon, il y en a beaucoup qui ont marqué, mais celui-ci, je le trouve très sympathique et intéressant, surtout pour à destination de Français, puisque nous, on est quand même connus international pour être des gens très critiques. Et très dans la crainte de l'échec, justement. Et donc, on veut baliser les choses à l'avance. Donc, je trouve que c'est un petit livre très agréable pour donner confiance et pour oser se tromper. Ça fait partie de l'apprentissage.
Et pour finir, y aurait-il une citation, un motto qui vous inspire ?
Oui, j'en ai une que j'utilise d'ailleurs dans l'annuaire des coachs, la SF Coach, dont je suis titulaire, qui est une citation de Scott Fitzgerald qui dit « À 20 ans, les convictions sont des collines d'où nous regardons la réalité. À 40 ans, ce sont des caves où nous nous cachons. » Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en coaching...
Et c'est vrai, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, oui, c'est un peu raide.
On sort pas de sa caverne, quoi, dans cette...
oui, mais bon, après, on peut en avoir une lecture dynamique. Là, c'est le constat. Hein. Mais c'est pour dire que... Parce que le travail du coaching, on travaille beaucoup sur les représentations, sur les convictions. Et l'enjeu, justement, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elles soient un guide, les convictions, mais non pas un enfermement. Et c'est vrai que ça peut facilement être le cas. Et du coup, quand ce sont des illusions, ça devient grave. Donc, le travail sur ses représentations, sur ses convictions, sur son code moral, sur son code de croyance, c'est un élément clé du travail de coaching, mais aussi un élément clé pour le développement personnel de tout un chacun. Je vous rappelle que quand on parle dans les philosophies bouddhiques du détachement, le détachement, c'est pas être en dehors de la réalité. C'est justement le travail de relativisation des convictions, de prise de conscience de tout ce background de croyances auquel on adhère, consciemment ou inconsciemment, et qui, à 18 ans, nous porte, et on est prêt à aller sur les barricades pour les défendre, et c'est très bien, mais à 40 ans, ça devient un petit peu sclérosant, et l'être humain aspire à se déployer au-delà de son carcan de croyances familiales ou nationales ou culturelles, et à déployer son libre arbitre et son autonomie au-delà de ce carcan. Voilà pourquoi j'utilise cette devise.
Ah, il y a plein de notions, on a parlé de plein de notions, et le détachement, encore une notion très forte et importante. Je mettrai donc en description de ce podcast, non seulement donc le livre, la citation, mais aussi je mettrai un lien vers le site internet du livre.
Oui.
C'est mon inspiration du jour.
C'est mon inspiration du jour. Et je vous invite. Alors, on peut l'avoir sur Amazon, mais il y a aussi un lien avec notre site internet, puisque il y a une boutique sur le site internet de notre société qui répond au doux nom de Souriez, vous managez.
D'accord. Et pour finir, en fait, je finis toujours, c'est une lubie que j'ai depuis quelques interviews, je me prends pour une fée, un bon génie qui sort de sa lampe, et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, parce que j'ai le pouvoir de vous aider à l'accomplir. On a parlé d'orgueil, d'humilité.
Ouais.
C'est aux antipodes de ça. Voilà ce que je voulais dire.
Okay, donc une baguette magique pour moi, pour mes réalisations. Ouais. C'est gentil, oui. c'est vraiment voilà. Sympa.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la
Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'être. Comment dirais-je le plus possible connecté au corps et au ressenti du corps et au bien-être terrestre. C'est-à-dire...
C'est drôle.
Et oui, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire...
C'est complémentaire.
Voilà, c'est-à-dire que si je suis connecté à moi-même et à la Terre, du coup, je peux aller ébrouer mes petites feuilles et mes branches, aller assez haut dans le ciel. Mais il faut cet ancrage. Et en ce qui me concerne, j'ai besoin de cet ancrage terrestre particulièrement. Donc, si vous me donnez cette chance-là, je vous en remercie beaucoup.
Cette interview et cette rencontre me fait penser à Gilles Dufour. Je ne sais pas si vous le
connaissez. Oui, je le connais très bien.
Ah, voilà. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des parallèles entre vous deux qui sont vraiment flagrants.
Ah, écoutez, on se connaît parce qu'on se connaît tout en mieux que... il se trouve que je suis le président d'une association de superviseurs de coach, la première en France, qui s'appelle PSF, la Fédération des superviseurs professionnels. Et il se trouve que Gilles est mon prédécesseur. Donc vous voyez, on est proches. Et ce qui est amusant, c'est qu'on est dans un projet d'écriture, de réalisation d'un jeu pour les coachs et les consultants, qui est un jeu des archétypes, hein, les archétypes jungiens notamment. Donc vous voyez, on a des, effectivement d'autant plus des liens électifs.
Alors, moi, mon métier, je suis opératrice de turbine à bonheur, donc j'utilise le jeu dans la connaissance de soi en entreprise. Donc, ça m'intéresse particulièrement.
Et vous utilisez peut-être d'ailleurs le jeu des valeurs ajoutées ?
Pas du tout, parce qu'en fait, je crée mes propres jeux.
Très bien. Je vais regarder.
Je crée mes propres processus. Mais quand est-ce que ça va sortir ? C'est juste un projet pour l'instant vous avez déjà des...
C'est un projet qui devrait sortir en septembre. Il se trouve qu'on a déjà créé un jeu qui plaît beaucoup aux consultants et qui s'appelle le jeu des valeurs ajoutées, qui a la particularité d'être fait avec des cartes de dessins d'enfants que je trouve magnifiques et avec des légendes de devises qui sont inspirantes et elles beaucoup plus adultes. Et c'est un jeu de 52 cartes que les consultants et les coachs aiment beaucoup parce que ça aide beaucoup dans le travail évidemment de coach mais aussi de présentation ou de tout ce qui est symbolique. Donc je vous invite à le regarder. Puis moi j'aimerais bien regarder vos jeux aussi parce que ça m'intéresse. Je suis toujours ouvert aux jeux nouveaux. Donc on en parlera, j'espère.
Ah faudra venir voir une turbine ou participer à une turbine à bonheur. Surtout que bientôt, je vais les ouvrir au grand public puisque je prépare des turbines. Bon, mais c'est sûrement pas votre cas, pour célibataire.
Wow.
Je vais faire ça partout en France.
Très bien.
Et aussi, je vais faire des turbines dans les écoles, là. Donc, non. Tout ça. Et, mais je retiens, je vous inviterai, si je peux vous faire participer pour voir. Parce que j'ai pas vraiment de support. J'invente des supports pour chaque turbine. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir nous avoir donné de votre expertise, de vos expériences et d'avoir partagé tout ça avec nous. Eh bien, je fais marcher ma baguette magique et tout ça est en route.
Super, merci. Je le prends, je le reçois. Merci beaucoup, Jana.
Et peut-être que je pourrais utiliser ma baguette magique pour réaliser un de vos souhaits. À vous, vous qui écoutez maintenant. Fermez les yeux, visualisez ce que vous souhaitez, abracadabra. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview, ce sera sur les constellations systémiques, nous avons évoqué ce sujet dans cette interview. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine, à très bientôt.